Je m'appelle Sabine Montpierre, je suis originaire de la Guadeloupe. Alors vous écoutez Radio Crapois sur les ondes de CKUT 90.3 FM.
Mabuhay! Bon après-midi, good afternoon, and welcome to Radio Kapwa on CKUT 90.3 FM. Today, I am joined on Radio Kapwa with co-host Ate Dez and Kuya Tevero, and also our very special guest, Sabine Montpierre, for which I'm going to read to you their bio that they provided. Originaire de la Guadeloupe, Sabine Montpierre est conseillère en éducation et en promotion des droits à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Elle a passé une grande partie de sa vie à vulgariser les enjeux d'égalité et à faciliter l'établissement de relations justes au sein de la collectivité. Lauréate du prix pour un Québec sans racisme 2023, elle porte de multiples chapeaux pour faire avancer sa cause. En plus d'avoir créé des outils pédagogiques pour sensibiliser les gens aux enjeux sociaux qui entourent le racisme et la discrimination, elle a mis sur pied des ateliers destinés aux jeunes familles issues de l'immigration. Bénévole au sein de sa communauté, elle est la fondatrice de deux organismes, soit l'Arbre du Voyageur ainsi que Femmes et Traditions, qui soutiennent les milieux ethnoculturels dans leur participation à la société québécoise. Diplômée en développement communautaire et relations interculturelles, elle se consacre au développement socio-économique des communautés afro-caribéennes. Membre du comité consultatif régional ethnoculturel des services correctionnels du Canada, elle veille à l'amélioration des conditions carcérales des afrodescendants. Elle a été honorée en tant que lauréate du calendrier de reconnaissance du mois de l'histoire des Noirs 2023 et elle s'investit activement dans la préservation des aspects de l'histoire noire, ayant été reconnue comme membre dans le cadre de la Convention UNESCO 2003 du Forum pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Donc, bienvenue à Sabine Montpierre. Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'introduction que ça? C'était une très belle introduction.
Oh, vous avez dit pas mal de choses. c'est assez résumé. Sinon, on pourrait passer la journée, mais ça va être ça. Merci beaucoup.
Donc, nous, on connaît qu'on est dans le mois de février, c'est le mois de l'histoire des Noirs, et puis Radio Kapwa ici, on cède vraiment notre microphone pour vraiment souligner et soutenir la communauté noire, et puis les leaders de cette communauté-là. Donc, nous, on a des questions génériques à poser à vous, puis on peut commencer déjà vraiment, comme je vous ai dit, mois de l'histoire des Noirs. Pour vous, que signifie et que aimeriez-vous que les personnes non noires sachent à ce sujet? Parce que nous, ici, à Radio Kapwa, beaucoup de notre listeners, c'est lui qui nous écoute, c'est la communauté philippino. Donc, aimeriez-vous qu'on nous en sache?
Alors, pour moi, le mois de l'histoire des Noirs représente beaucoup, beaucoup de choses. Parce que c'est comme le mois où j'ai besoin de me célébrer. J'ai besoin de célébrer mes histoires. Je dis jamais mon histoire, mes histoires, parce que avec la colonisation, nous avons tous été métissés, et c'est à la fois l'histoire de mon ancêtre qui a été esclavagé que je célèbre, mais aussi l'histoire de mon ancêtre esclavagiste que je célèbre, parce que dans nos familles antillaises, nous avons les deux côtés quand nous remontons dans notre arbre généalogique, ben nous avons une personne esclavagée qui a donc été réduite à l'esclavage, mais on a aussi un de nos ancêtres dans notre arbre généalogique qui était un esclavagiste, donc qui encourageait l'esclavage et qui avait des esclaves chez lui. Donc je célèbre ces deux histoires-là, c'est pas que je suis fière de dire que mon ancêtre esclavagiste, je veux le célébrer, mais je veux nommer que au final, mon histoire se compose de plusieurs histoires. Et ces histoires-là ont longtemps été effacées dans les récits éducatifs, dans les récits historiques, comme pour dire que c'était du passé. Ce n'est pas du passé. on le vit encore, puisque si on est rendu à 2024 à vivre des situations d'enjeux de racisme, des situations de discrimination, l'esclavage est un passage dans l'histoire qui a formé le racisme. Oui. Donc, c'est comme de la terre dans laquelle on a planté des graines et qui a créé des racines. Et pour maintenant arriver à lutter contre ça, ça prend tout un processus de décolonisation dans l'esprit pour que les gens puissent comprendre que tes croyances ont alimenté tes préjugés, qui ont alimenté tes mythes et qui ont amené encore à nos jours à dire que, par exemple, telle communauté, automatiquement, on lui donne déjà une étiquette négative et de vouloir généraliser, de penser que tout le monde est pareil. Alors, pour moi, le mois de l'histoire des Noirs, c'est ça. C'est célébrer mes histoires, c'est célébrer mes ancêtres, c'est célébrer tous ceux qui m'ont précédé pour m'amener où j'en suis présentement. Cette femme que je suis, qui s'est construite aussi dans des défis dont elle a été confrontée, des défis qui me rappellent encore une fois que dans ma lignée de mes ancêtres, on a été constamment dans cette dynamique de faire face à des défis. Donc, c'est célébrer nos résiliences, c'est de célébrer nos résistances, c'est aussi de célébrer tout ce leadership que nous avons construit à nos jours, pour qu'on puisse dire, ben, on prend notre place malgré tous ces combats, on prend notre place. C'est aussi le moment, je trouve, important de montrer encore qu'il y a des enjeux, il y a encore des difficultés, il y a encore des obstacles auxquels sont confrontées les personnes des communautés noires. Malheureusement, malgré que des lois ont été votées, adoptées, on fait des marches, on fait des manifestations pour lutter contre le racisme et les discriminations, eh bien, on est encore là. Et c'est un mois qui nous permet aussi de nommer nos obstacles, nos défis et nos enjeux.
Mic drop.
Oui, exactement. Moi, je suis comme, my God, je peux vous écouter comme toute la journée de parler. Et chapeau avec tout le travail que vous faites dans le passé, aujourd'hui, pour le travail que vous faites. C'est tellement important. It's just so important. So chapeau. Est-ce que vous pouvez partager des directions ou juste pour mentionner tout ce que vous faites, de vos projets, you know? Qu'est-ce qui se passe dans les prochaines semaines pour vous?
J'ai une vie professionnelle qui correspond clairement à mes valeurs, qui correspond clairement à mes combats. Et cette vie professionnelle est en accord, est vraiment en match avec ma vie sociale, ma vie d'engagement pour les citoyens, pour la société. Alors, je me retrouve très bien dans les deux domaines parce que mon travail, c'est de sensibiliser, c'est de conscientiser les personnes sur les enjeux de racisme et de discrimination à travers de la formation, à travers des rencontres éducatives, des plateformes pour faire comprendre aux gens comment le racisme peut être sournois. C'est un phénomène qui est invisible, qui est comme un brouillard, mais qui est constamment en évolution, constamment en transformation. Le racisme qu'on a connu dans les années 60, à l'époque de la ségrégation aux États-Unis, n'est plus ce racisme-là qui existe. Il s'est déjà transformé. Il est constamment en mutation. Et ça veut dire qu'à chaque époque, il faut observer comment il se transforme pour pouvoir aussi repérer qu'il y a à la fois non seulement des subtilités, mais aussi qu'il est sournois, en fait. Il est subtil. Alors, on peut nommer... Il y a plusieurs discriminations et c'est ce que les gens doivent comprendre. Et c'est ça le travail que je fais, c'est de nommer à ces gens que ce racisme-là, avant qu'ils prennent le nom racisme, ils commencent d'abord avec des manifestations très simples, très inconscientes, comme les microagressions, comme les biais inconscients, comme les préjugés, les stéréotypes. Après, on monte, on arrive aux discriminations. Les discriminations, ben, là aussi, on en a différentes formes de discrimination. Discrimination directe, c'est la discrimination qui est avouée. On sait très clairement que tu n'es pas apprécié. La personne qui te montre le message te le dit clairement. Je suis raciste. Mais ensuite, on a la discrimination indirecte, une discrimination subtile, sournoise, la discrimination systémique, le système qui met en place des règles, des mécanismes dans son système à lui, mais qui fait que ça fait des exclusions de certaines personnes. Tu as ensuite le profilage racial et social. Et quand on arrive à ça, on commence à monter, on arrive auprès des actes à caractère haineux. Et quand on arrive à ces actes à caractère haineux, on a complètement après toute la partie génocide. Donc, et là, c'est que dans l'esprit collectif, on dit toujours, c'est vrai, le génocide, c'est inacceptable, c'est impardonnable, ce n'est pas possible, c'est condamnable. On va condamner les actes haineux. Mais lorsqu'on approche des discriminations, après tout ce qui touche les biens conscients, les préjugés, tout ça, on va dire, oh, mais non, il n'y a pas de racisme. J'ai des amis qui sont de telle communauté. Je ne suis pas en train de te mettre de côté. Tu le prends peut-être trop personnel ou bien c'est trop culturel.
Oh, t'es trop sensible.
Oh, je déteste.
Exact. Il y a un travail à faire auprès de la population et ce travail-là, c'est d'amener le réveil des consciences. Ouais. Si on veut une société plus juste, plus égalitaire, plus inclusive, mais ça prend de reconnaître qu'il y a des personnes qui sont discriminées. Et la discrimination, c'est quoi? C'est être tout simplement traité différemment de l'autre, d'être exclu, d'être marginalisé, tout simplement parce que je porte des caractéristiques que l'autre n'accepte pas, ma couleur de peau, mon orientation sexuelle, mon opinion politique, mon handicap, mon état de ma transition de genre, etc., etc., etc. Et là, j'approche cette information-là en regard quelque part de la Charte des droits et libertés de la personne, parce qu'il s'agit de ça. Tout individu vient avec des droits, et ce droit qui fait obstacle, qui vit de l'obstacle pour qu'une personne retrouve un service pareil que l'autre, c'est le droit à l'égalité. Tant et aussi longtemps que ce droit à l'égalité sera absent dans nos sociétés, dans nos communautés, dans nos milieux professionnels, on vivra tout le temps de l'exclusion, de la marginalisation, du rejet, parce que ce droit à l'égalité empêche l'inclusion et empêche la reconnaissance. L'absence du droit à l'égalité empêche la reconnaissance de l'humanité, l'humanité d'un individu, sa dignité et aussi son intégrité en tant que personne. Alors, avec cet aspect dans ma vie professionnelle où je chemine dans les quartiers, dans les sociétés à travers Montréal, je rencontre des entreprises, des organismes, je fais de la conscientisation, ça m'amène à poser des actions aussi en termes dans ma vie de femme, ma vie de citoyenne, auprès de ma propre communauté aussi, où je mets en place des activités pour que au sein de ma communauté aussi, on est conscience de ça, créer des événements qui permettent aussi une meilleure ouverture vers et comprendre l'autre. beaucoup de tables rondes. J'adore ça. On m'a fait beaucoup de tables rondes pour amener des échanges d'idées, faire
les conversations.
Les conversations. Et ça permet d'entendre les récits parce qu'il s'agit de ça. Il faut avoir ces espaces d'échange qui vont permettre de verbaliser des situations, entendre des témoignages pour que les gens parlent, pour notre santé mentale et pour sentir que quand je parle de ce que je vois ou que j'ai été témoin ou que j'ai vécu moi-même, je suis en train en même temps de me guérir de ces traumas que cette société m'envoie constamment pour me montrer que je suis différente.
Donc c'est, wow, again, encore une fois, un autre mic drop parce que...
Exact. We're just nodding. We're like, yes.
Beaucoup de thèmes que vous avez parlé, vraiment très, 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 très importants. Et j'aimerais vraiment prendre le temps aussi de vous remercier avec tous les travaux que vous faites, de vulgariser, de sensibiliser, être un chemin, être un pont pour toutes ces communautés. On sait que dans la communauté, disons dans la communauté noire, il y en a déjà how do you say that, like, people are not getting along together. Puis moi, je parle toujours la communauté anglophone, caribienne, la communauté francophone, caribienne, puis la communauté anglophone de l'Afrique, puis francophone. Donc, il y en a beaucoup déjà de division entre cette communauté-là. En fait, la communauté noire, c'est très, 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 très grande. C'est comme si la communauté asiatique, il y en a plein aussi. Donc, c'est sûr et certain qu'il y a beaucoup de différences aussi, mais il y a beaucoup plus de similarités. Donc, ce que vous faites, c'est vraiment eyes on the prize. On a beaucoup plus de similarités que les différences. Donc, c'est vraiment important de vraiment mettre les mots et, en fait, valider. Donc, vous dites que vous aimerez ça, vraiment, les tables rondes, puis entendre les témoignages des autres personnes. C'est parce que, dans ce temps-là, les gens se sentent validés de ce qu'ils disent, de ce que leur histoire est là. Et puis, tout le monde peut déjà entendre leur histoire, leurs expériences. Et tout le monde peut aller dans leur voyage, but like their journey of healing. Donc, ici à Centre Capoa, nous, on connaît déjà les conséquences de la colonisation, puis nous aussi, on fait la décolonisation, mais on aimerait vraiment concentrer dans les santé mentale puis le bien-être de tout le monde. Donc, nous, on est là à dire, OK, décolonise, mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'on sait que, de votre histoire, qu'est-ce qui se passe? On sait que, OK, nous, on vient notre lineage des esclavages. Like, comment tu vas te sentir puis comment tu vas heal de cette like, en entendant cette histoire là c'est beaucoup donc oui. C'est vraiment un gros travail, je veux dire ça tout de suite, beaucoup de travail émotionnel aussi de burst the bubble of these people. Donc encore une fois, je prends juste le temps de vous remercier de votre travail, non seulement pour les femmes, non seulement pour les gens incarcerated, mais les droits de tout le monde, même les enfants, même les immigrants, les réfugiés, tout ça, tout le monde est valide. Donc, vous faites les tables rondes de cette communauté-là et puis c'est exceptionnel. Moi, je trouve ça exceptionnel. Je veux juste prendre cette petite commentaire-là tout de suite. On a encore deux grandes questions à poser. Donc, on parle beaucoup de intersectionnalité et je viens de parler les différentes communautés noires aussi. Donc, nous, en tant qu'organisation philippine, pour vous, que signifie l'allié et l'allié intersectionnel? Comment on peut show up notre allyship pour la communauté?
Alors, c'est ça le problème, c'est qu'on est dans une société maintenant qui va juger un individu sur plusieurs éléments qui va le caractériser. Mm-hmm. Et on pourrait dire, par exemple, une femme, je prends l'exemple, hein, dans mon cas, une femme noire, forcément, je pourrais vivre des discriminations parce que je suis une femme noire. Mais je prends un exemple où je vais être en train de me chercher un logement, par exemple. Hein, je vais me chercher un logement. Je suis femme noire, monoparentale, femme noire immigrante. Et là, voilà que, à cause du fait, non seulement que je sois une femme
femme noire, monoparentale, immigrante en processus de recherche de logement, je me retrouve maintenant avec cette accumulation de ces plusieurs caractéristiques qui vont me fermer l'accès à obtenir un logement parce que le propriétaire en face de moi va considérer, non seulement parce que déjà je suis noire, il ne veut pas de personne noire dans son immeuble, je suis une femme, il pourrait être un homme sexiste. Donc, en plus de ça, je suis monoparentale. Ça veut dire qu'il ne veut pas d'enfants dans son immeuble. Et donc, pour lui, automatiquement, si je suis monoparentale, ça pourrait signifier que j'ai une précarité dans mes revenus. Donc, peut-être que pour lui, je ne pourrais pas payer son loyer régulièrement. Donc, il est en train déjà de me discriminer sur ma condition sociale. Il me discrimine sur mon état civil parce que je suis monoparentale et que j'ai des enfants. Il me discrimine sur ma couleur de peau parce que je suis une femme noire et entre guillemets la race, même si on sait que la race n'existe pas. Il me discrimine aussi sur le fait que je suis immigrante parce que pour lui, en tant que femme noire, en plus immigrante, forcément, je suis dans un statut peut-être d'immigration, soit demandeur d'asile ou de réfugié politique. Alors, c'est le cumul et là, non seulement c'est le cumul, mais c'est le croisement de tout ça qui fait que je vis une intersectionnalité et de penser parce qu'il m'a vu que je n'étais pas la personne locataire idéale pour occuper son logement. Et c'est ça, cette société actuelle, qui nous renvoie constamment à notre différence, nous faire passer pour l'autre, pour faire passer comme l'étranger. Et je pourrais nommer plein d'autres exemples. Une femme qui serait lesbienne, en situation de handicap et enceinte. Pareil, elle se retrouverait dans un milieu hospitalier pour venir trouver des soins et qui vivrait une intersectionnalité dans l'accès aux services à l'hôpital parce qu'elle préciserait effectivement tous ces critères-là et que la société viendrait l'accuser, l'opprimer, pas parce qu'elle est une femme en situation de handicap ou en situation de être lesbienne, c'est de dire comment se fait-il, elle est lesbienne, elle est en situation de handicap, et en plus, elle est enceinte, donc comme si elle n'aurait pas dû avoir une sexualité et que son handicap ne lui donnerait pas le droit d'avoir une maternité. Donc, vous voyez, c'est tout ça, c'est différent, c'est des comportements que la société nous envoie, nous éclabousse sur nous comme de l'arbre pour nous mettre dans des moules parce qu'on serait finalement hors norme. Et c'est ça, c'est ce cumul-là. Alors moi, je dis que tant et aussi longtemps, on aura une société qui n'a pas compris qu'on ne peut pas être homogène, qu'on doit accepter les différences, parce que la discrimination, c'est sûr, ça vient pas que le fait d'être une personne noire. La discrimination, c'est être une personne aussi en situation de handicap, être une personne en situation de transition de genre, être une personne qui a aussi opinion politique ou religieuse, etc. Donc, comment aider les gens à accepter la différence de l'autre sans pour autant que sa différence crée une absence d'échange? On doit accepter l'autre tel qu'il est, sachant que chacun de nous, nous contribuons à cette société-là. Donc, il y a du travail. Il y a beaucoup de travail à faire pour comprendre que lorsqu'on vient finalement avoir des attitudes envers certains individus par rapport à plusieurs caractéristiques qu'il aurait, cette intersectionnalité va amener cette personne à vivre beaucoup de rejet, à se sentir, à être complètement isolée, à se même culpabiliser d'en avoir pas été peut-être acceptée en raison de ces différentes caractéristiques qu'elle porte, et de se dire peut-être que c'est de ma faute, si j'ai pas eu accès à tel service. Peut-être que c'est de ma faute si j'ai voulu trop afficher qui je suis et on ne peut pas cacher qui on est.
Et puis on va arrêter tout de suite là pour ceux qui nous écoutent là, c'est vraiment pas ta faute. Les caractéristiques, disons que en tant que d'origine philippine, que moi je suis lesbienne, ça c'est les choses, ça c'est les caractères, ça c'est mon identifiant que moi je peux pas vraiment contrôler. Donc monoparental, je peux pas vraiment contrôler ça. Immigrant, réfugié, je peux pas vraiment contrôler ça. Donc encore une fois, je vais souligner vos travaux en tant qu'éducatrice, de vraiment faire le pont pour tout le monde, que tout le monde a leur propre expérience et que ça, il y a une absence dans notre éducation. Moi, je suis allée dans une école publique. Donc, il y a une absence de cette histoire-là, les expériences très valides et c'est les expériences des gens qui nous entourent, puis il est absent. Donc, on va pas toucher avec le racisme systémique dans dans le domaine d'éducation, mais il y a, comme vous dites, il y a vraiment beaucoup de choses à...
C'est une grande lutte.
Une grande lutte, puis ça donne aussi, comme ça met beaucoup plus l'importance sur les communautés, puis sur l'éducation culturelle, partout, pour tout le monde, right?
On peut pas tout faire, mais il y a des places où on peut, dans nos communautés, qu'on peut faire. Et c'est ça, avoir les conversations, être capable de partager un peu nos situations et laisser la place pour les autres de partager leur situation. And to recognize that, like, we have to find the power in ourselves and we have to understand our lineages. Qu'il y a des bonnes choses, qu'il y a des mauvaises choses qui ont arrivé, mais ça, c'est toute l'histoire. Mm-hmm. You know what I mean? It's all part of history and there's a reason for why we are who we are. And we have to learn how to stand strong in that so that we understand the gray zones.
Il y a une expression, une citation en fait d'une poète, une professeure philippine, Rosel Rizal, puis il dit know your history, know yourself. And know yourself, but then I'm going to add, and then have compassion for the world as well. Right? Parce que comme vous avez mentionné, c'est comme c'est slavery à la passée, mais ça crée une base, right? Tout le monde. So, il faut comprendre, il ne faut pas comme rester, parce que j'ai eu plein de conversations puis avec des blanches, puis ils sont comme, oh, vous êtes toujours comme dans l'histoire et tout le temps dans le passé. Puis j'ai dit oui, parce qu'il faut comprendre où on vient, pour comprendre pourquoi on est là aujourd'hui. That's a whole other conversation, mais merci de nommer ça et de mentionner ça aujourd'hui, parce que c'est très important. C'est très important parce que tout le monde, I'm going to name it, il y a des gens qui sont comme, ah, colonisation, you're always complaining, going back in the past, but it's like, you have to go back in the past, minimum.
Pour guérir.
Exactement.
Les traumas.
Absolument. OK, dernière question. Sabine, est-ce que vous avez un message pour une Afro-Philippine ex qui écoute aujourd'hui, qui sont pas assez, un peu perdus, mais vraiment qui sont pas assez dans le système au Canada, ici, avec tout ce que vous avez mentionné dans cette entrevue. Qu'est-ce qui est votre message pour cette personne?
Ben moi, ce que je vais dire, c'est qu'on est tous, nous, les héritiers de l'histoire qui construit la société qu'on vit maintenant, dans laquelle on vit maintenant. Et si je veux faire un lien avec le mois de l'histoire des Noirs, nous sommes tous les héritiers de l'histoire en lien aussi avec ce passé qu'on veut dire passé, mais qui demeure présent. Ça prend des récits. Et avant tout, le premier pas, c'est qu'il faut reconnaître. Mm-hmm. Il faut commencer par reconnaître. Et lorsqu'on aura commencé par faire cette étape de reconnaissance, la reconnaissance, c'est ça qui va nous aider à cheminer vers l'acceptation de nous-mêmes, aller vers nos traumas et guérir intérieurement pour que cette guérison intérieure prenne la place vers la guérison collective. Et surtout, pour qu'on puisse ensemble identifier l'essentiel et consolider nos liens. Tant qu'on n'aura pas fait cet exercice-là à l'échelle individuelle, on ne pourra pas passer à l'étape au-dessus. Parce que c'est des couches et des couches et des couches d'oignons qu'on enlève comme ça. Il y a même notre lignée même familiale qu'il faut nettoyer, il faut épurer. Et c'est des couches et des couches et des couches, mais il faut ouvrir le dialogue, il faut ouvrir les espaces, il faut laisser les enfants parler, il faut entendre les récits des anciens, il faut créer ces liens intergénérationnels. Il faut vraiment amener des espaces où chacun reconnaît qu'il a un rôle à jouer pour renforcer l'identité des communautés, pour pouvoir aussi comprendre que nous avons besoin de retrouver notre humanité. Parce que notre humanité, elle a disparu. On est dans l'individualité, on a oublié l'humanité. Et lorsqu'on se rapproche de son humanité, on se rapproche vers l'inclusion, les relations harmonieuses, on se rapproche vers l'égalité, on se rapproche vers une société plus juste. Okay? Oui. Parce que si on ne fait pas ça, ce qui arrive, c'est qu'on va laisser des personnes encore dans leur mindset, on va dire ça comme ça.
Ouais.
Ça engendre des conflits, même à l'intérieur des communautés. Et ça va, qui dit communauté, donc dans des familles. Mm-hmm. Et qui dit famille, dit donc forcément, moi, l'individu aussi, je me retrouve impliqué et confronté à ça. C'est un problème social qui brime des vies déjà et qui détruit beaucoup des rêves. Alors que l'important, c'est de pouvoir ensemble trouver des solutions, faire comme vous faites là, créer des espaces d'échange, rencontrer des personnes qui s'impliquent, faire entendre des parcours de vie pour inspirer les autres. Et moi, je dis que cette nouvelle génération doit prendre sa place. Elle doit chercher à comprendre à partir de tout ce qu'elle voit autour d'elle, comment elle peut elle-même contribuer à sa communauté, à sa société. D'accord? Cet exercice-là, il faut le faire. Comment maintenant je peux amener moi-même ma part, ma contribution pour faire changer les choses? Il n'y a que les cons, je m'excuse du terme, qui ne changent pas. J'ai dit, hein, le racisme évolue, il est constamment en mutation.
Ouais.
La société évolue, est constamment en mutation. Donc, nos actions, nos façons de faire doivent aussi évoluer et être constamment en mutation. Et ça prend effectivement des gens qui restent observateurs, qui regardent qu'est-ce qui se passe pour réagir rapidement et pour amener, pour créer l'équilibre.
Mm-hmm. J'adore. J'ai une autre dernière question. Est-ce que vous avez d'avis, un message pour un immigrant qui écoute cet épisode, puis qui veut faire le travail, mais comme, where do I start? You know what I mean? C'est sûr qu'il y a beaucoup de messages, il y a beaucoup de, there's lots of knowledge, mais c'est sûr comme immigrant, t'es au Canada, tu connais personne, tu sais pas, like, what's the first step? Est-ce que vous pouvez partager peut-être une première step? Maybe join a community, maybe, you know, because moi, je suis née ici. Je ne peux même pas imaginer comment ça sent pour aller dans un autre pays avec le racisme systémique. Puis, on commence où? You know what I mean? So, one step that you would suggest, the first thing that somebody would do as an immigrant that's listening to this episode.
OK. Je dis toujours que quand une personne a immigré, c'est qu'elle a quitté sa société d'origine pour aller dans un autre écosystème social. J'aime utiliser le terme écosystème parce que c'est comme une plante. Une plante qui a été dans son environnement. Par exemple, on achète une plante dans un magasin, on la trouve jolie. Elle était dans un environnement qui faisait qu'elle était jolie. Une fois que tu l'amènes à la maison, tu fais qu'on remarque qu'elle est plus comme, elle a perdu sa beauté. Il y a comme s'il y a quelque chose qui fait qu'elle est pas à sa place. Donc, tu vas la bouger plusieurs fois dans ta maison pour voir, est-ce que c'est peut-être parce qu'elle a besoin plus de lumière ou est-ce qu'elle a besoin plus d'eau? Est-ce que c'est peut-être par là qu'il faut la mettre? Jusqu'à ce que tu as trouvé le bon endroit pour elle et elle commence à reprendre sa place, elle recommence à rayonner. Eh bien, on est comme des plantes. Lorsqu'on immigre, on est cette plante qui sort de son écosystème au départ et qui doit chercher à s'adapter pour s'intégrer. Ça va ensemble. On n'arrive pas comme ça et on dit qu'on va conquérir la société dans laquelle on vient se trouver une place. Eh bien, pour se trouver une place, il faut s'adapter pour s'intégrer. Ça veut dire que je dois accepter que ce que j'ai quitté chez moi ne peut pas être pareil dans la nouvelle société où je vais. Je dois prendre ce temps d'observer comment fonctionne. J'ai le droit d'aller rechercher s'il y a des gens de ma communauté aussi qui existent, parce que c'est important de pouvoir être connecté au début avec sa communauté pour reprendre un peu de force. C'est nécessaire. Cependant, ce que je dis, que lorsque je viens ici, c'est que je suis venue chercher quelque chose qui me manquait chez moi. Je suis venue chercher un rêve que je veux voir aboutir. Donc, je dois toujours me souvenir pourquoi j'étais là, pourquoi je suis venue ici. Je suis venue pour chercher quelque chose, je dois identifier vraiment clairement ce que je suis venue faire et qu'est-ce que je fais, quels sont les moyens que je mets en place pour aller vers ce rêve que je suis venue chercher. Donc, ça me demande une remise en question constamment pour être certain qu'au fur et à mesure que je chemine dans mon processus migratoire, que je suis en train d'arriver vers mon rêve. Si c'est difficile, je dois accepter que je ne peux pas tout de suite y arriver parce qu'il y a des choses que je dois faire avant. M'intégrer, peut-être aller chercher du travail, peut-être aller travailler, améliorer mon CV, faire du bénévolat ou élargir davantage mon réseau, m'impliquer un peu plus, c'est ça. Mais je dois accepter que c'est un processus. Et quand on est dans un processus, ça va au rythme que ça doit aller. Au final, il faut que lorsque je me retourne et que je vois tout le chemin que j'ai parcouru à mon arrivée, je me dis, oui, ça a pris du temps, mais j'ai réussi. Parce que je suis restée focus sur mon objectif, parce que je savais pourquoi j'étais rentrée.
Mm-hmm. That's so beautiful, so beautiful. Et le message, c'est que, comme le message, c'est ça prend du temps. Right?
Oui.
Ça prend du temps parce que j'imagine c'est comme des immigrants viennent ici, puis c'est une société qui est tellement comme fast-paced, rush, il y a beaucoup de pression, c'est un autre, comme vous dites, écosystème, puis ça vient avec beaucoup de pression. So, le message, c'est normal, ça prend du temps. Just to note it, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de stress qui vient avec, comme oh, je ne suis pas assez vite, mais le message. Beautiful wisdom is
yes.
It takes time. So give yourself some time.
Take your time and be yourself.
Oui, merci. And
eyes on the prize.
Non, mais ça, c'est très important parce que j'étais dans une meeting vendredi avec des gens qui cohabitent. Puis tout le monde, sont tous des immigrants. Puis on a eu une meeting après 7 mois parce qu'on a essayé de faire une réunion après 3 mois, mais tout le monde a été honnête, puis ils ont dit non, on n'a pas eu assez de temps de stabilité. Mm-hmm. Puis on a eu un meeting après 7 mois, puis maintenant ils sont comme OK, on a eu du temps, on a trouvé des jobs, on sait où on habite, on connaît la ville un peu plus, mais ça prend du temps. Puis mm-hmm. We don't think we're allowed to take time parce qu'on vit dans une société qui est comme
go, go, go.
Do it fast, you should be an expert, you should be like, mais it doesn't make any sense. So mm-hmm. Merci pour dire ça ici, merci pour tous les conseils, tout le wisdom, mm-hmm. Everything that you shared. On est à la fin de notre épisode,
but it's never too much, you know. On a beaucoup parlé, mais on mérite vraiment d'avoir cette place-là de faire la discussion. Mais comme Dess a dit, on est dans la fin de notre entrevue. C'est pas le final. On veut sûrement que vous passez votre temps encore une fois ici chez Radio Capois. Mais pour aujourd'hui, pour nos chers écouteurs, on vous remercie d'avoir nous écouté sur les ondes de CKUT 90.3 FM. On est bilingue ici. Et puis, on vous remercie à tout le monde. On remercie encore une fois Sabine Montpierre pour son temps.
Merci Sabine.
Mais merci de m'avoir invitée.
Mais oui, merci, merci.
Un grand, grand, grand plaisir de t'avoir.
Merci.
I'm still Magandang hapon sa inyong lahat. Good afternoon, everyone. My name is John Marvin Reyes. I am a youth leader and community organizer here bringing you Ipaninis back home in the Philippines. The article is from the Philippine News Agency with the title, Streamlined Procurement Will Solve Lack of Basic Education Books Salon. There is a need to streamline the procurement of public school textbooks to ensure that all learners have their own set. In a news release on Saturday, Senator Sherwin Gatchilan said a second Congressional Commission on Education, or EDCOM2, has disclosed the lack of textbook in public schools. Our youth's education will be neglected if the problem on lack of quality textbook persists. EDCOM2 said in its report that only 27 textbooks for kindergarten to grade 10 have been procured, while the only textbooks for grade 5 and 6 were procured since the K-12 curriculum was introduced in academic year 2012 and 2013. The same report showed that from 2018 and 2022, 12.6 billion pesos was allocated for textbook and other instructional materials, 35.3% or 4.5 billion pesos of which was obligated, and 7.5% or 952 million pesos was disbursed. Vice President of Department of Education, or DepEd Secretary Zara C. Duterte, said in her Basic Education Report 2024 in January that alongside traditional textbook, they would also provide e-textbooks. To leverage digital technology, we have started consultations with various publishers to facilitate the provisions of electronic textbooks, she said. Department of Education is also implementing catch-up Fridays in public schools across the country to improve basic education learners' readings and writing skills. Gatchilan plans to seek an oversight review of Book Publishing Industry Development Act to assess whether the country's publishing industry is keeping up with the rapid digitalization. The article was written by Lionel Abasula and published on February 10, 2024. Thank you so much for listening. Malaming salamat sa pakikinig. Once again, this is John Marvin Reyes, delivering you Philippine news from abroad.
Oh, not to play pretend. Try not to see the end. But I couldn't see you the way you saw me. Now I can feel the waste on me. I tried my best to be worth all your while. You just gotta let me go as I'm trying to let go of you.
Fight back, oh snack, and she know it's like that. Bonjour à tous. Welcome back. And this is Fanny Cristo on air. Whether you're at home, on the job, in school, or driving, you are listening to Radio Capua on 90.3 FM, and we are on every Wednesday from 2 to 3 p.m. Right now, we're about to get into our community announcements, so mark your calendars. Starting March 15 to 16, Black Symposium Noir will be held at Maison de la Culture Côte d'Ivoire. The conference program features selected paper presentations and roundtables grounded in this year's theme, which is Black Radical Thought and Praxis in Montreal. Stay tuned to be in the know. Next, this Wednesday, February 21, from 6 p.m. to 7:30 p.m. at the Refugee Center located at 2107 St. Catherine West, Suite 100, the Refugee Center will be working alongside the Black Healing Center to create a series of workshops focusing on artistic expression. In the hopes of promoting the different cultures present in our community, they invite talented BIPOC artists to showcase their own form of art. To register, visit their Instagram account at the Refugee Center. The next day, February 22, from 4 p.m. to 6 p.m., Brick par Brick is having Francisco Wagner, for those interested in French and theater, by hosting a Freedom Workshop. Let them know you're interested by checking their Instagram page at BrickXBrick. BrickXBrick. And on the Friday, February 23, from 10 a.m. to 11:30 a.m. at 6865 Avenue Christophe Colomb, La Maisonnée.org is inviting you to attend a free informational workshop on double grief, immigration, and separation. During this workshop, there will be an exploration of essential topics such as the double curve of grief, the legal and emotional aspects of statute, immigration, and marital, promoting rights and preventing discrimination, as well as the challenges of sexism and racism. To register, visit their Instagram page at lemaisonnee.org. And on the same day, February 23, from 5 p.m. to 7 p.m., Chalet Kent and Exico organize together to implement a collective project that makes sense to you and your community while developing your skills. Snacks will be provided during this activity. If you want to know more, you can visit their Instagram account at Chalet Kent. And on this Saturday, February 24, from 1 p.m. to 4 p.m. at Phi Center, located at 407 St. Pierre Street, the BCRC proudly presents the second annual animated Black Film Festival for a captivating afternoon of networking and celebration, showcasing works by talented local Black animators. Dive into thought-provoking films, engage with their esteemed guest speaker panel, such as Anouk Perrous-Belli, Chase Scott, and Kofi Oduro, and experience much more. Admission is free, and for more info, visit their Instagram account at BCRCMTL. That same evening, Saturday, February 24, Jalak is proud to host their first movie and board game night, part of their Desi Queer Social Series happening at QPerg Concordia, 2100 Gee Street, Suite 205 for a fun-filled evening. Get ready for an exciting night of movies and board games with a Desi twist. Whether you're a Desi queer or a strong ally, this event is for everyone who loves a good time. For more info, visit their Instagram page at Jalak Montreal. Fast forward a few days, on Tuesday, February 27 and Thursday, February 29, from 6 to 8 p.m. at 12138 Rue La Jeunesse, Suite 301, Full Circle Montreal is hosting a self-portrait photography workshop facilitated by Olivia Biz, Instagram account Biz Archives. To register and for more information, visit their Instagram page at fullcircle_MTL. Lastly, and this is about us, Centre Capua, from February 23 to 25, catch us, the Radio Capua team, at Pinoy's On Parliament, organized by Kabanka at Ottawa, for their annual National Youth Leadership Conference. For more info, visit their Instagram account at Pinoy's On Parliament. Now, what exactly is Pinoy's On Parliament? Founded in 2018, POP is a yearly national leadership conference for young Philippine ex-Canadians held in Ottawa, Ontario, where members of the Filipino Students Association of University of Ottawa reflected on how Philippine ex-Canadians are underrepresented in the Canadian government. They felt a need for a space where they can network and learn from leaders in the fields they want to succeed in. Now, I know Santa Capua and Radio Capua has been to POP before, but me personally, this is going to be my first time, so...
What's up, y'all? It's your girl, Simply Sita, coming to you from West Haven Community Association.
Join us Friday, February 23rd for a special edition for Black History Month, West Haven's Black Talent Showcase, with performances, vendors, and food. All going down at
7405
Harley and NDG. Tickets only $5, $10 at the door. Showcasing our Black talent.
We we got Pat Dillon with some storytelling.
Performances by Natasha Marie, Preach,
Tokyo, Shawnee and Snake,
Widget, Kid Crooks, and the West Haven Teens. Poetry by Tash, Black Gold and Zibs, and Afro-Caribbean Dance with West Can. Your host, me, Ziplocks, and my girl, Sita.
So come through.
7405 Harley in NDG. Tickets at www.westhavenrecreation.org. West Haven's Black Talent Showcase, Friday, February 23rd, starting at 7 p.m. See you there.
Paix de ton ami qui saignait du nez après qu'il soit rentré dans une porte patio fermée, sans rire de lui.
Évidemment.
Avec ton empathie, tu as de l'avenir en santé et services sociaux. Trouve ta place sur québec.ca/carrière en santé. Un message du gouvernement du Québec.
TD and Production Nuit d'Afrique present Women of the World Raise Their Voices. 5 special concert evenings from February 1st to March 8th. Don't miss the grand premiere. Lidl's Cameroonian Slam, Brazilian songwriter Bia Ferreira, Lorraine Classen's 40-year career anniversary, The Roots Daughters Sound System, and Cora Virtuoso, Sona Jobarte.